Bonjour, je me nomme Hélène Chabot et je suis professeure de philosophie au Cégep Gérald Bonnet. Je suis aussi co-chercheuse dans le projet ELAC, une nouvelle approche de l'enseignement de la lecture littéraire au collégial. Dans ce balado, j'interviewe des enseignantes et des enseignants qui ont expérimenté l'approche. Ils nous font part de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont fait, des bénéfices encourus et des difficultés rencontrées, bref, de tout ce qui est susceptible de vous donner des idées et des outils pour vous lancer vous-même dans l'action. Dans cet épisode, je discute avec Andréanne Clermont, enseignante au département de français et de lettres du Collège Annecyc, au sujet du texte d'invention comme moyen privilégié d'enrichir la lecture littéraire. Bonjour Andréanne.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer au balado.
Bienvenue.
Tu as expérimenté le texte d'invention dans un cours de 103. Est-ce que tu pourrais nous préciser le contexte dans lequel tu l'as expérimenté, puis quelles étaient tes motivations?
Oui, alors j'ai décidé d'évaluer mes étudiants à partir de textes d'invention pour la dernière évaluation de la session de 103. Je trouvais que c'était l'opportunité pour moi de le faire parce qu'évidemment, on a beaucoup de contraintes en 103. On doit préparer les élèves à l'épreuve uniforme de français, ce qui fait que qu'on appelle, nous, l'évaluation finale est une dissertation critique qui arrive, somme toute, assez tôt dans la session, de manière à ce qu'on puisse la remettre avec des corrections avant que l'élève soit soumis à l'épreuve uniforme. Ça nous laisse un peu de liberté pour l'évaluation qui arrive à la toute fin de la session parce qu'on a déjà vu, on a déjà terminé nos évaluations relatives à l'objectif méthodologique principal, qui est la dissertation critique. Alors, je me suis dit que j'allais profiter de l'évaluation qui arrive à la fin de la session, qui est un petit peu moins lourde en termes de pondération, mais qui est quand même importante, puis qui doit rester significative. Sinon, j'ai l'impression que les élèves vont perdre leur motivation. Mm. J'ai fait mon épreuve, j'ai fait ma dissertation critique. Maintenant, j'ai plus rien à apprendre dans ce cours-là. Alors, moi, je voulais être sûre qu'ils restent motivés jusqu'à la fin. Puis, j'ai pensé à exploiter leur créativité, leur donner la chance d'éprouver le plaisir de l'écriture, en fait, de voir l'écriture d'un autre point de vue que celui qu'on aborde là, dans les dissertations critiques.
Oui, c'est vrai que c'est une belle occasion à saisir.
Oui, oui.
Et quelle était l'œuvre sur laquelle tu as fait le texte d'invention?
C'était sur la femme qui fuit. Mm-hmm. C'était la dernière œuvre qu'on a lue, évidemment. Mm-hmm. Et oui, c'est une œuvre sur laquelle on a passé presque un mois, là, peut-être même un petit peu plus pendant la session.
OK. Puis comment ça s'est passé en tant que tel, là, la préparation du texte d'invention? Comment est-ce que vous avez fonctionné pour préparer à l'évaluation?
Bien, tout d'abord, les élèves ont dû lire, évidemment, La femme qui fuit. Ils ont dû, si je me rappelle bien, on l'a lu en deux étapes. Alors, on a lu une première moitié du texte. Les élèves devaient faire une lecture active. Ça leur avait été enseigné au tout début de la session, des différentes stratégies de lecture active. Ils devaient laisser des traces de leur lecture dans le livre, sur des feuilles de notes. Ils devaient me les envoyer aussi par vidéo, me faire une petite vidéo là où je pouvais constater qu'ils avaient fait une lecture sérieuse du texte. Mm-hmm. Puis après, on se réunissait en classe pour un cercle de lecture. Bon, il y a eu deux cercles de lecture. Et puis, essentiellement, ils ont eu à discuter, ils ont eu à faire des prédictions, je crois, sur la suite de l'œuvre. Ça, c'était après le premier cercle. Et mm-hmm. ils ont repéré ensemble des moments charnières. En fait, ils avaient repéré individuellement pendant leur lecture des moments charnières du texte pour les différents personnages. Et ils ont comparé les moments qu'ils avaient repérés Ils ont discuté ensemble pour voir s'ils avaient la même lecture là, de ce qui était un moment charnière dans le... Alors, ils ont fait ça. L'idée que j'avais, c'était de leur faire écrire un texte d'invention, en fait, deux petits textes d'invention. Un sur un personnage imposé qui est Suzanne Meloche, qui est le personnage principal de l'œuvre, et l'autre sur un personnage qui devait choisir parmi les autres personnages du texte. Alors, j'ai fait une compilation des moments charnières qu'ils avaient identifiés par personnage, okay. Et je leur ai demandé de choisir un de ces moments charnières-là pour écrire à partir de là, un monologue intérieur du personnage retenu qui tiendrait compte d'abord de ce qui se passe avant dans le texte, mais aussi de ce qui s'en vient après, parce que les moments charnières, c'était des moments charnières essentiellement dans la vie des personnages. C'était donc des moments où ils allaient vivre des transformations, faire des choix qui allaient modifier le cours de leur existence. Et donc, ils devaient imaginer l'état d'esprit, si on veut, du personnage au moment de faire ce choix. Mm. Ça exigeait de très bien comprendre, d'abord de très bien comprendre le contexte dans lequel le personnage se trouvait, les enjeux affectifs qui pouvaient le motiver, le contexte socio-historique qui pouvait aussi favoriser ou défavoriser ses choix.
Oui. Bien, il faut dire que cette œuvre-là, elle provoque des choses. Les élèves sont souvent très réactifs aux personnages qui abandonnent ces enfants. Comment est-ce que tu as fait pour justement faire en sorte que ils ne soient pas pris dans leur biais là, de ces réactions-là?
Bien, je pense que dans le cas de la femme qui fuit, on a quand même on a de la chance parce que l'œuvre est tellement inscrite dans le contexte socio-historique de l'époque que si on a bien travaillé, bon, moi par hasard, mais pas tout à fait par hasard, parce que c'était le cadre de référence que j'avais bâti. Je m'étais assurée que les élèves soient préparés à recevoir un personnage comme celui de Suzanne Meloche qui abandonne ses enfants. On avait lu auparavant « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » et ils avaient quand même pu constater à quel point c'était difficile d'être une femme pendant la Grande Noirceur et même d'être un homme ouvrier pendant la Grande Noirceur, qu'on avait une population qui était aliénée et que la femme l'était doublement. Ils avaient pu voir ça chez Marie-Lou et ils avaient donc déjà un peu compris dans quel cadre tout ça s'inscrivait. Évidemment, la difficulté avec Suzanne Meloche, c'est que c'est quand même très... c'est violent parce que c'est vécu, ça a été vécu pour vrai. Alors, on sait que là, on a affaire à une femme qui a laissé ses deux enfants. Puis en plus, on a une photo de ces deux beaux enfants-là dans le livre. Alors, on la voit avec ses enfants quelques mois avant qu'elle les ait abandonnés. Et ça, c'est sûr que c'est dérangeant. Mm. Mais comme les élèves, comme je le disais, ils avaient conscience des difficultés de l'époque et ils ont eu à comparer les deux époques que sont la Grande Noirceur et la Révolution tranquille. Et ils comprenaient bien les différences entre les deux époques. Puis ils comprenaient bien aussi que la Révolution tranquille n'a pas été instantanée. Puis qu'au moment où l'action de la femme qui fuit se déroule, les femmes ont très, très peu de ressources si elles se séparent, par exemple, qu'elles ne peuvent pas facilement mener une vie de mère et une vie d'artiste. Mm-hmm. Ils avaient quand même conscience des difficultés que ça pouvait représenter. Alors ça les a aidés à prendre une distance. Mm-hmm. Pour la plupart, ils ont réussi à la prendre, cette distance-là, puis à ne pas juger les personnages. En fait, je leur avais bien demandé de faire attention de ne pas juger les personnages. Mm. Je leur avais dit, écoutez, on doit essayer de les comprendre avant de les juger, là. J'avais fait spinoza de moi-même. Et j'avais essayé de les motiver à rester bon avec les personnages avant de porter un jugement sur eux. Puis pour la plupart, ils ont réussi à le faire. Mm.
Donc, comme dit Spinoza, ne pas juger, mais comprendre.
Voilà, c'est ce que j'espérais qu'ils puissent faire.
OK. Ben donc, ça faisait partie des critères d'évaluation, ça. Parce que, oui, c'est beau dire on cherche la créativité, on cherche à approfondir l'œuvre, mais tout ça, ça doit être évalué. Comment tu as fait pour procéder à l'évaluation? C'était quoi les critères?
Bon, alors, il y avait plusieurs... bon, dans la consigne comme telle, je demandais donc de réussir à adopter un point de vue... adopter le point de vue du personnage. Donc, essayer de se mettre à sa place. Déjà, ça veut dire faire un petit peu abstraction de soi. Et en faisant ça, ben, je leur demandais d'écrire au « je ». Alors, nécessairement, ils devaient se mettre à la place du personnage et se mettre un petit peu à distance. Ils devaient, moi, pour les évaluer, ce que j'ai fait, c'est... bon, évidemment, je leur ai demandé d'ancrer leur texte d'invention dans des faits repérables dans le récit. C'est-à-dire qu'ils devaient quand même tenir compte du passé du personnage, puis de ce qu'ils savaient aussi de la suite de sa vie. Mm. Ah, nécessairement, en tenant compte de ce qu'ils savaient du personnage, ça veut dire qu'ils devaient tenir compte du contexte dans lequel ce personnage-là s'était trouvé, de ses motivations et aussi de l'histoire de l'époque. Alors, ça les a forcés, si on veut, à être à faire un exercice d'empathie, mais c'est dans l'exercice de plausibilité que l'empathie a pu se développer, parce qu'ils ont été obligés de se tourner vers le texte et non pas seulement vers leur réaction. Alors, il y avait le critère de plausibilité. Il y avait le critère aussi de richesse. Ça, je le mesurais dans leur capacité à se relier concrètement là, au texte d'origine. Et il y avait la qualité de la posture qui était évaluée. Donc là, évidemment, ça c'est pas une évaluation, comment dire, il y a une forme de subjectivité à l'œuvre parce que ça dépend un petit peu de ce que je peux percevoir. La qualité de la posture, je le mesurais dans l'écriture elle-même. Est-ce que cette écriture-là témoignait d'une volonté réelle d'aller vers l'autre pour le comprendre? Alors, c'est un peu subjectif, là.
Mm-hmm,
oui. Il n'y a pas de façon objective de l'évaluer. C'est pas comme compter le nombre de fautes qu'un élève fait, mais ça se sent très bien quand... une volonté de comprendre.
Oui. Donc, ces critères-là, la posture, la possibilité, la richesse, mais aussi les normes associées au travail demandé. Donc, un monologue intérieur, c'est au jeu. C'est quoi les éléments? Comment as-tu fait pour enseigner ça aux élèves?
Pour leur enseigner, bien, j'ai modélisé le travail à accomplir, c'est-à-dire que j'ai choisi un personnage qui est mineur dans le texte, c'est le frère de Mousse, François Barbeau. Alors, François, il est présent dans le texte, mais de façon un peu plus marginale, si on veut. Alors, je l'ai choisi, moi, comme personnage. J'ai écrit un texte d'invention sur lui, en montrant aux élèves comment j'avais procédé pour le faire, en leur expliquant aussi pourquoi j'avais choisi, par exemple, bon, moi, j'ai choisi d'écrire un texte d'invention sur François qui se déroulait peu après ses retrouvailles avec sa sœur. Donc, à un moment donné, quand Mousse est jeune adulte, elle va rencontrer son frère, il y a des problèmes psychiatriques et la reconnaît tout de suite quand il la voit. Et là, je leur ai montré finalement que subtilement, même si mon texte ne semblait pas nécessairement le faire, je m'étais basée sur une série de faits importants dans la vie de François. Donc, je leur ai fourni une liste. Par exemple, bon, je leur ai dit que moi, dans mon texte d'invention, j'avais voulu inscrire le fait que François perçoit Mousse comme un ange. Alors, il y avait une référence à la page à laquelle il exprime ça. François est froid tandis que Mousse est chaude. Il l'exprime ça plusieurs fois. J'ai repris cette opposition entre le chaud et le froid dans mon texte d'invention. Il y a aussi des ressemblances entre Mousse et François. C'est la raison pour laquelle il la reconnaît. Ça, je l'avais inscrit comme un fait. Il y a plusieurs autres petits faits qui sont biographiques, mais qui sont importants pour comprendre François, que j'avais inscrit dans mon texte, mais en leur donnant vraiment la page, en leur montrant où j'ai pris ça, moi, dans le texte. Comment j'ai pu construire mon texte en me basant sur le roman. Donc, le fait que François s'est prostitué, le fait qu'il est schizophrène, il y a des toutous qu'il protège, à qui il parle, ça. Alors, j'ai tout inscrit ça, je leur ai montré comment j'avais procédé. Je leur ai aussi montré comment ils ont analysé la femme qui fuit suffisamment pour voir aussi quelle était de quelle nature était l'écriture dans ce texte-là, que c'était une écriture simple, que les phrases étaient relativement courtes, qu'il y avait un ton peu emphatique, là, quand même très sobre. Je leur avais demandé de respecter ça aussi dans leur écriture. Alors, comme ils connaissaient bien le style du texte, ils ont pu le reproduire. Ils avaient compris comment prendre appui sur des faits pour imaginer la suite, si on veut.
OK. Alors, finalement, le travail du texte d'invention impliquait pas seulement de tenir compte du contexte, mais vraiment un travail sur la langue, sur l'expression, sur la façon dont on transmet le sens du texte. C'est vraiment intéressant, je trouve.
C'était intéressant de le faire, puis ouais. Ils ont aimé le faire. Ils ont trouvé ça intéressant, eux aussi, visiblement, parce que ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer. Je m'attendais à ce qu'ils arrivent à l'évaluation parce que l'évaluation avait lieu pendant la semaine d'évaluation. Ils avaient 4 heures pour faire leur évaluation. Puis comme ils s'étaient beaucoup préparés, je pensais qu'ils feraient ça vite puis que ça serait fini. Mais ils sont restés pendant les 4 heures. Ils voulaient retravailler leur texte. Ils ont produit des textes qui étaient tous très différents les uns des autres, mais pour la grande majorité, très, très pertinents. Alors, j'en conclus que ça fait appel véritablement à leur intelligence, à des qualités qui sont du domaine vraiment des savoir-être, là, certainement. Puis, à leur créativité aussi. Je pense qu'ils ont goûté au plaisir d'écrire ça, oui, je l'ai senti aussi. Chose qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de faire au cégep.
Ils ont été amenés à faire le même travail qu'Anaïs Barbeau-Lavalette a eu à faire lorsqu'elle a créé son texte, parce que c'était ça qu'elle faisait aussi.
Exactement, puis je leur ai fait remarquer que c'était somme toute un processus assez semblable, puisqu'elle-même, elle a dû se baser sur des faits assez peu nombreux, les faits qu'elle avait, mais qu'elle a voulu s'inventer une grand-mère, inventer un peu... combler les vides, combler les manques dans son histoire à elle, et que finalement, ce qu'elle faisait, c'était combler d'autres vides, venir combler d'autres vides qui restaient à combler là, dans l'histoire des personnages, puis que c'était une démarche très semblable à celle de l'autrice.
Oui, ça boucle la boucle, parce que en fait, c'est un texte d'invention qui est cohérent avec l'œuvre elle-même, puis ses procédés. Donc, à part le fait que les étudiants, ça leur a plu, je pense que ça t'a plu à toi aussi. quels sont les bénéfices, finalement, d'avoir procédé de cette façon-là? Est-ce que, donc, du point de vue de l'apprentissage, est-ce que tu as vu des choses intéressantes?
Oui, bien, d'abord, le fait de passer pas mal de temps avec une œuvre, ça permet à une expérience authentique de se produire. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de complètement vrai dans la manière dont on travaillait. Je sentais que le projet qu'on menait était pas... que c'était pas juste une tâche à abattre puis quelque chose qu'il fallait faire pour s'en débarrasser. Mm. Déjà, ça, c'est une grande différence dans la lecture. Et il y avait, j'ai senti un engagement beaucoup plus profond de la part des élèves. Mm-hmm. Oui, certainement. Mm-hmm. Et puis, à cause de cet engagement-là, bien, une lecture plus profonde, plus riche, plus vraie. Et puis aussi une capacité de dépasser les premières impressions. Comme on en parlait tout à l'heure, Suzanne Meloche, c'est un personnage qui choque au premier abord parce qu'elle a abandonné ses enfants, puis qu'on est encore bien scandalisé de ça, une mère qui abandonne ses enfants, même si elle n'est pas toute seule à les abandonner, il y a quand même, elle a quand même un mari qui les abandonne lui aussi. Et on est vraiment choqué par ses choix à elle. Et puis, on est d'autant plus choqué qu'elle les laisse pour réaliser de grandes choses qu'elle ne réalise pas finalement.
Ouais.
C'est encore. Tu sais, si elle était devenue là, une artiste mondialement connue, peut-être qu'on lui pardonnerait plus facilement. Mais là, elle a été réellement. Elle a erré d'un projet à l'autre. Elle était incapable de s'engager dans quoi que ce soit de manière définitive. Mm. Alors, c'est sûr que ça, c'est choquant, c'est bouleversant. Puis, beaucoup d'élèves, au départ, la jugeaient beaucoup, malgré que je leur avais demandé de ne pas le faire. Là. Je comprends. La première fois que j'ai lu ce livre-là, je l'ai refermé. J'étais en colère. J'ai écrit une lettre à Manon Barbeau. J'étais complètement dans une impossibilité totale de me mettre à distance moi-même. Alors, je peux comprendre qu'une ait trouvé ça difficile, mais ils ont quand même réussi à le faire. Alors, à la toute fin de l'évaluation, ils avaient à rédiger un texte réflexif sur leur expérience avec la femme qui fuit. Et dans ce texte réflexif, là, oui, j'ai pu mesurer que des apprentissages très précieux avaient été faits au niveau des savoir-être parce que, oui, la mise à distance de soi avait pu s'opérer progressivement au fur et à mesure que la compréhension à la fois des personnages, du texte, de l'époque se mettait en place, puis que finalement, ils étaient beaucoup plus enclins à l'empathie, puis à la, comment dire, ils étaient plus réservés, en tout cas dans leur jugement, à avoir fait tout ce processus-là. Ils n'avaient plus, en fait, de jugement négatif sur Suzanne Meloche. Ils trouvaient toujours que c'était triste comme histoire, que c'était triste ce que Mousse et François ont vécu comme abandon, parce que ça l'est, effectivement. Mais ils étaient beaucoup plus prudents dans les jugements qu'ils posaient, pour la plupart.
Mm. Donc, c'est une très grande réussite, finalement.
Oui, je pense que oui. Disaient presque tous, ils ont écrit des choses très différentes, mais presque tous m'ont écrit ce que j'ai appris sur moi dans cet exercice-là, c'est de me méfier des jugements hâtifs que je peux porter sur des gens que je ne connais pas, dont je ne connais pas les motivations. Ils ont pris conscience qu'on pouvait difficilement juger les autres sans connaître leur motivation profonde.
Oui. J'imagine que ça leur a montré aussi l'importance de la lecture littéraire de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ça transforme, que c'est pas simplement une activité intellectuelle pour augmenter notre culture générale, mais qu'il y a plus là-dedans.
Absolument, parce que c'est une opportunité. Ça, je leur avais bien expliqué, mais là, ils l'ont vécu. Je leur avais expliqué que puis c'était d'autant plus vrai qu'on était quand même, on venait de retourner en présence, mais on a vécu dans l'isolement quand même pendant des années. Nos opportunités de rencontrer des gens très différents de nous ont chuté radicalement les dernières années, puisqu'on a été réduit à une bulle qui est nécessairement faite de gens qui nous sont proches, et que la littérature était une occasion unique de rencontrer une véritable différence qu'on ne rencontrera pas autrement. Je leur ai placé un petit peu face à leur propre contradiction parce que au début de la session, je leur demande d'écrire une lettre dans laquelle ils se présentent, Ça, c'est autre chose que le portrait de lecteur littéraire que je leur fais faire, là, mais une simple lettre dans laquelle ils se présentent et puis ils doivent me mentionner leurs valeurs, puis leurs rêves, et puis pour la plupart, ils rêvent de voyager, de découvrir le monde. Je leur dis, écoutez, lire, c'est aussi une façon de voyager, puis de découvrir le monde, mais de découvrir la différence. C'est ça à quoi on se frotte quand on voyage, quand on découvre le monde. Et puis là, on ne peut pas le faire, mais par la lecture, on peut rencontrer une véritable différence.
Oui, c'est très précieux.
Oui.
En quoi cette activité-là pourrait être réinvestie ailleurs ou quelles seraient les conclusions auxquelles tu arrives après l'avoir faite?
Bien, une chose est sûre, c'est que les textes d'invention, en général, offrent beaucoup de possibilités si soi-même on est créatif comme enseignant. Parce que si on prend le temps d'imaginer une activité, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes qui permettent de faire des activités de ce genre. Moi, j'ai essayé de la créer de façon, comme on a dit, de façon à ce qu'elle soit vraiment cohérente avec l'œuvre. Mais je pense vraiment que c'est chaque œuvre comporte quelque part une opportunité de faire ce genre d'activité si on l'examine bien. Ça ne sera pas nécessairement la même chose que ce que moi j'ai fait, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de... Au niveau de l'écriture, entre autres, il y a une lecture préalable à faire, mais après, il y a le plaisir de l'écriture qui n'est plus une écriture... les textes qu'on leur fait faire sont presque tous des recettes. Il y avait une participante au projet qui appelait ça de la peinture à numéros. C'est vrai, on a l'impression des fois qu'on leur fait faire de la peinture à numéros. Et là, on était vraiment dans l'antithèse de ça. Alors, c'était beaucoup plus riche. Il n'y avait rien d'automatique là-dedans. Il fallait vraiment s'investir. Puis, je pense que l'intérêt de ça, le véritable intérêt de ça, c'est de découvrir que quand on s'investit réellement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan affectif, à tous les plans, sur le plan personnel, intellectuel, affectif, réflexif, analytique, on est enrichi. On est enrichi par ça. Et c'est presque impossible de ne pas être enrichi, en fait. Il faut vraiment être décidé pour ne pas être enrichi par une expérience comme celle-là.
En effet.
Vraiment pas vouloir.
Faut être bouché.
pas se laisser enrichir. Alors, pour la plupart, ça les enrichit.
Puis, tu sais, tu as parlé beaucoup aussi de la mise à distance de soi. Je pense que c'est quelque chose aussi que tu as retenu. Il y a une leçon à tirer de ça.
Certainement, parce que je me suis dit que c'était vraiment une clé. Comme plusieurs de mes collègues, j'éprouve un certain malaise depuis quelques années à traiter différents sujets sensibles qui pourraient heurter mes élèves, qu'on parle de questions de que ce soit de l'esclavagisme, de certains sujets qui sont sur le racisme, qui sont difficiles à aborder et puis qui peuvent générer évidemment des réactions inattendues de la part des élèves, mais aussi des malaises de notre côté à nous, les enseignants, alors qu'on n'avait pas ce genre d'inquiétude avant. Là, on a même peur pour notre réputation, pour notre intégrité. On a peur d'être maladroit. Mais je pense que quand on cultive la mise à distance puis qu'on la cultive explicitement comme une qualité, comme une valeur qui permet d'aborder presque tout avec délicatesse, avec respect, mais je pense que la mise à distance est une qualité essentielle pour réussir à tenir des débats, des discours, faire des réflexions qui sont sereines sur des sujets d'actualité ou des sujets de société qui sont difficiles. Alors, cette mise à distance-là, elle est absolument nécessaire pour un ensemble de situations de la vie. Alors, oui, c'est précieux. C'est précieux de la cultiver.
En effet, très pertinent. Un gros merci, Andréanne. C'était vraiment très intéressant.
Merci à toi.
L'approche de l'ELAC a été développée dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par le programme PAREA avec Catherine Bélec et Roxane Doré. Pour plus d'informations, consultez notre site web elac.ca. Ce balado a été rendu possible grâce à l'Élan. La captation sonore et le montage sont réalisés par Rémi Assal.